Le collège de Gouta.
Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous venons d'arriver à Saint-Hippolyte-du-Fort en vélo. Moi et Suzanne allons introduire les divers sujets sur lesquels les membres de l'atelier radio ont travaillé.
Quatre thèmes sont en rendez-vous. Le cinéma avec la chronique d'Athénaïs sur son animé préféré Fairy Tail, celle de Guillaume sur Godzilla d'un point de vue cinématographique.
Et celle de Suzanne sur Adventure Time, un cartoon humoristique. Après une petite pause musicale, on attaquera la deuxième thème, l'écologie. Il comportera la chronique de Lily, Ambre et Hippolyte sur la protection de l'environnement. Ensuite, on écoutera une chanson de leur choix et on passera le micro à
Paolo, qui a travaillé sur « De plus en plus de personnes disparaissent ». Iban enchaînera sur les intelligences artificielles et ce que cela réserve pour l'avenir.
Et Anaïs et Léna nous exposeront les nouvelles sur la Coupe du Monde du football féminin après une introduction musicale. Émile terminera ce sujet par les tensions entre la Chine et Taïwan.
Et Augustin nous parlera du voyage en Espagne organisé par notre collège pour finir cette émission.
Eh bien, commençons sans plus attendre. Je passe le micro à Guillaume.
Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je me retrouve une fois de plus devant le micro pour cette fois-ci vous parler d'un monstre, d'un titan. Aussi populaire qu'impressionnant, j'ai nommé Godzilla. Godzilla est un titan de 50 à 300 mètres, capable de cracher du feu nucléaire, généralement bleu, à très haute pression. Il nage aussi très bien, de façon à traverser des océans. Il marche sur deux pattes, possède des épines dorsales qui s'illuminent quand il se prépare à cracher. Son apparence peut faire penser à un dinosaure, normal, puisque c'en est un. S'il est devenu un titan, c'est parce qu'il a été exposé à des radiations qui l'ont fait muter. Bien que ses bras ne soient pas vraiment immenses, ce ne sont pas non plus des bras de T-Rex et il peut aussi s'en servir pour se battre. Il semble aussi, comme la majorité des autres monstres, posséder des facultés régénératrices, ce qui explique son invulnérabilité totale aux armes à feu. Alors Godzilla s'est aussi déjà battu contre une multitude d'autres titans, comme par exemple Mothra, Rodan, Gigan, Megalon, Mechagodzilla, Biollante, Space Godzilla, Destoroyah, le pire, King Ghidorah, et aussi le très célèbre King Kong. Et oui, Godzilla et Kong se sont déjà mis sur la gueule auparavant, deux fois. Une en 1962 dans King Kong contre Godzilla, et une en 2021 dans Godzilla vs Kong. Et malheureusement, Godzilla ne s'est jamais mesuré au Bimanum Marshmallow de Ghostbusters. Même si son arme principale est son feu nucléaire, que d'autres qualifient de souffle atomique ou de rayon laser atomique, on lui découvre parfois d'autres capacités qu'il n'utilise que dans certains films. Dans Godzilla vs Mechanic Monster, il peut absorber de l'électricité pour créer un champ magnétique. Dans Godzilla vs Mechagodzilla 2, il peut renvoyer les décharges électriques qu'il reçoit. Il peut aussi lancer une version surpuissante de son feu nucléaire, un peu comme une force ultime qu'il n'utilise qu'en dernier recours. C'est une capacité qu'il conservera jusqu'à Godzilla Final Wars. Sa queue est préhensible dans Godzilla X Megaguirus, et dans Godzilla vs Edora, il peut voler en arrière en se recroquevillant comme une crevette. Dans Godzilla vs Gigan, il a la capacité de parler. Et dans Godzilla 2, Roi des Monstres, il peut émettre des impulsions thermonucléaires, des explosions atomiques si vous préférez. C'est là aussi une sorte de force ultime qu'il utilise en dernier recours. Au cours de sa carrière cinématographique, il aura eu deux fils, Minilla et Godzilla Junior. Ça fait 3 si on compte Godzilla Junior, et 4 en comptant Godzilla Filius. Il faut aussi noter qu'il y a eu 3 versions dérivées de Godzilla. Zilla, Shine Godzilla et Godzilla Earth, et aussi 4 si on compte Godzilla Ultima. En tout cas, malgré son âge, il a 68 ans, anniversaire le 3 novembre, Godzilla est toujours aussi impressionnant, voire plus, vu l'évolution des effets spéciaux au cinéma. Et sa carrière cinématographique n'est pas près d'être finie. Petite information, Godzilla revient le 15 mars 2024 dans la suite de Godzilla vs Kong qui s'appellera Godzilla X Kong, The New Empire. Le titre donne déjà envie de voir. La bande-annonce est déjà en ligne, je vous invite à la regarder. Il y en a aussi quelques fausses, mais rassurez-vous, elles sont sans danger. C'est malheureusement la fin, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.
Merci Guillaume pour cette chronique intéressante. Je passe le micro à ma collègue animatrice, j'ai nommé Athénaïs.
Chers auditeurs, chères auditrices, Athénaïs au micro et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve aujourd'hui sur Ondes de Choc, la radio du collège de Quissac, dans les locaux de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. L'année dernière, je vous avais proposé une chronique sur l'anime japonais Demon Slayer, mais aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique sur Fairy Tail, que j'ai fini de regarder il n'y a pas très longtemps. C'est aussi un anime japonais célèbre dans le monde entier. Je l'ai découvert en cherchant un nouvel anime à regarder sur Netflix. Vous avez la possibilité de regarder cet anime sur plusieurs plateformes telles que Netflix, ADN, Prime Video, Direct Star ou Crunchyroll. Il a été créé par les studios d'animation japonaise Pika Edition. C'est aussi une série de mangas écrite et dessinée par Hiro Mashima. Fairy Tail est un anime d'action, d'aventure, de fantasy et de comédie. Au total, 63 tomes plus 1 tome 0 sont sortis. Il compte 9 saisons qui réunies font un total de 228 épisodes et 2 films d'animation, La Prêtresse du Phénix et Dragon Cry. Dans le royaume de Fiore, il existe parmi les communs des mortels, des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Ils sont appelés mages. Pour mieux les contrôler, des guildes ont été créées et mises sous la responsabilité du Conseil de la Magie. Parmi ces nombreuses guildes, une d'entre elles fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais surtout et aussi pour les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit de la guilde de Fairy Tail. Maintenant, je vais vous présenter un peu les personnages principaux. Donc, nous avons Natsu, un chasseur de dragons de feu, et Lucy, une constellationniste, sont les personnages principaux. Happy est le chat de Natsu, Grey le masque de glace, Erza qui change d'armure quand elle veut, Wendy une chasseuse de dragons célestes, Carla et son chat, Jubia qui maîtrise l'eau et qui est amoureuse de Grey, Gadjil est un chasseur de dragons d'acier et Panther Lily et son chat. Il existe plusieurs mondes, celui d'Earthland dont viennent Natsu, Lucy, Grey et donc tous les mages, et Edolas d'où viennent Happy, Carla et Panther Lily des Exides. La magie fait partie intégrante de l'univers de Fairy Tail. Elle désigne tout pouvoir surnaturel et issu d'une énergie appelée l'Eternano. Il existe de nombreux types de magies différentes et des mages peuvent se spécialiser dans certaines de ces magies. Les chasseurs de dragons sont des enfants ayant été élevés par des dragons associés à un élément qui leur a appris une magie qui, selon les légendes, est la seule permettant de vaincre un dragon. La magie d'invocation permet d'invoquer depuis une dimension parallèle des objets, des personnes, notamment les 12 esprits du zodiaque, ou même des animaux. La magie stellaire est une magie d'invocation qui permet d'invoquer depuis leur monde les esprits représentant les constellations. Les 12 esprits du zodiaque étant considérés comme les plus puissants, les esprits invoqués à l'aide d'une clé d'argent sont des simples constellations et les esprits ayant invoqués par des clés d'or sont les 12 signes du zodiaque. Les magies perdues ont été interdites ou oubliées au cours du temps, mais certains mages les pratiquent encore, principalement dans les guildes noires. Pourquoi j'ai adoré cette série ? Je l'ai adorée parce que j'aime beaucoup le fantastique et l'intrigue de l'histoire. Un de mes personnages préférés est Lucy pour sa magie constellationniste, mais celui que je préfère c'est Natsu car il est très drôle, tête de mule et fonce dans le tas tout le temps. Merci de m'avoir écouté pour la toute dernière émission de l'année et on espère à l'année prochaine. Je vous souhaite un très bel été.
Merci Athénaïs, ton travail était super.
Nous continuons dans le même thème, je laisse la parole à Suzanne.
Aujourd'hui, je vous parle d'une série animée cartoon et humoristique que j'adore, probablement ma préférée. Aujourd'hui, je vous parle d'Adventure Time. Elle a commencé en 2010 et la dernière saison est sortie en 2018. Cette série est très mature et aborde plein de sujets différents à travers des métaphores loufoques. Par exemple, l'amitié, la solidarité, la discrimination ou bien encore la confiance en soi. Les personnages principaux sont Jake, un chien magique qui étire ses membres à volonté, et Finn l'humain, un adolescent et un héros de la Terre d'Ou. Ses protagonistes sont comme des frères, leur amitié est indéfinissable. Ils se comprennent, rigolent et parfois pleurent ensemble. Ils évoluent, apprennent de ce monde fantastique qui paraît à la fois redoutable et merveilleux. Ils seront toujours là l'un pour l'autre et je trouve assez rare d'avoir une histoire basée sur une amitié aussi solide. On suit Finn qui se construit et essaye de combler son manque de repères depuis qu'il est enfant. Il n'a pas connu ses parents biologiques et a été élevé par ceux de Jake. Il ne sait rien sur ses origines et de plus il n'y a aucun humain là où il vit. Il n'a donc aucune piste au début de la série, mais les aventures se succèdent et son passé finit par venir de lui-même. Jake est là pour Finn du début à la fin, parfois avec des conseils un peu farfelus et des idées qui font de lui un personnage hilarant. Lui aussi va en apprendre plus sur lui-même durant cette grande aventure qu'est la vie. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est que nous apprenons toutes ces choses en même temps que les personnages, ce qui nous en rapproche énormément. Ce qui fait que nous nous mettons très bien dans la peau des personnages et qu'ils deviennent attachants, c'est qu'on nous montre leurs erreurs, leurs défauts et leur évolution qui en font de grandes qualités. Ce qui fait la particularité de cette série, c'est aussi qu'on nous donne tous les moyens pour comprendre quasiment tous les personnages qui la composent. On nous les présente sous chacun de leurs angles. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont aucun sens, et j'adore ça parce qu'on nous donne le pouvoir de l'interpréter. Et selon la manière dont on se sent, de nos préoccupations, ça aura un sens différent. Et je trouve que ça permet à la série de ne pas vieillir et de pouvoir l'apprécier même quand on devient grand. Je pense que c'est un dessin animé qui fait rire, grandir et provoque des remises en question. J'y attache des souvenirs très agréables et une expérience à la fois distrayante et instructive. Voilà, ma chronique est terminée, je pourrais parler bien plus, mais ce sera pour une prochaine fois.
On a fini le thème de la littérature sur la chronique de Suzanne.
Alors c'est l'heure de la pause musicale, nous écoutons la musique de Fairy Tail dont vous a parlé Athénaïs. Parler écologie.
Ça marche. On laisse la parole à Lily, Hippolyte et Ambre qui ont travaillé ensemble sur cette chronique. C'est parti.
Bonjour. Nous allons vous parler de développement durable et des gestes écologiques à adopter au quotidien pour réduire notre consommation d'eau et de déchets. Mais avant tout, Lily, peux-tu nous rappeler ce qu'est le développement durable ?
Bien sûr. Le développement durable, c'est tout simplement un développement qui répond à nos besoins présents sans impacter notre environnement et notre consommation, d'ailleurs quelque peu excessive, future. Le développement durable est créé pour durer, comme son nom l'indique, et pour des adaptations et gestes écologiques. Ambre, peux-tu nous parler maintenant d'astuces pour limiter notre consommation d'eau ?
Pour vous donner un ordre d'idée, tirer une chasse d'eau, c'est équivalent à jeter dans les sanitaires 8 litres d'eau potable. Essayez donc de moins souvent tirer la chasse. Par exemple, quand vous vous douchez lorsque vous attendez que l'eau chaude monte, utilisez un récipient pour mettre l'eau froide et le jeter ensuite dans les sanitaires, par exemple.
Vous pouvez aussi avoir des poules ou un compost, et au mieux les deux, pour éviter de jeter le reste de vos aliments. Et encore mieux, finir tous vos plats et repas.
Avoir l'un des deux vous permettra de pouvoir faire de l'engrais pour vos plantes et pour les nourrir. Tandis qu'ayant des poules, cela vous produira des œufs. Et dans un autre sujet, mais toujours dans le cadre de l'écologie, comment peut-on réduire nos déplacements, Hippolyte ?
Face aux défis environnementaux qui se multiplient, il est crucial de repenser à notre façon de nous déplacer. Le secteur des transports est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Contribuons ainsi au réchauffement climatique pour préserver notre planète et réduire notre impact écologique. Il est impératif d'adopter des modes de transport plus durables et respectueux de l'environnement.
Mais nous pouvons nous poser une question. Quel est le moyen de transport le plus écologique et pour les trajets les plus longs ?
Selon les données de l'ADEME, le train est le mode de locomotion le plus écologique et le moyen de transport le moins polluant. Il est donc le meilleur transport pour les trajets les plus longs. Mais quel transport privilégié pour les trajets plus courts, Hippolyte ?
Je conseillerais personnellement d'utiliser les transports en commun, comme les bus, tramways, métros et trains électriques, réduisant les émissions de CO2, contribuant à la réduction des embouteillages et améliorant la qualité de l'air dans nos villes. Mais nous pouvons aussi faire du covoiturage.
Par ailleurs, l'extension des réseaux des transports en commun peut aider à promouvoir leur utilisation. Et pour les trajets vraiment les plus courts, vous pouvez évidemment utiliser vos vélos, trottinettes, etc. Et même vos pieds, même si ça n'arrange pas les flemmards. Et c'est tout ça. Et c'est super tout ça. Mais qu'en pensent les Français ?
Eh bien, figure-toi que selon les données de l'ADEME, plus de 50% des Français pensent que consommer mieux, c'est consommer moins. Mais ça, et ça, c'est bien.
Mais penses-tu vraiment qu'ils ont tous été honnêtes ?
Ça, je ne sais pas, mais si on se fie aux études faites, beaucoup disent qu'à présent, leur consommation se limite à des produits meilleurs pour la santé et qu'ils sont garants de la protection de la planète.
Ah, ben ça avance enfin. Mais en même temps, ça représente que 50%. Nous devrions tous normalement être concernés et ne pas se dire « Mais s'il n'y a que moi qui fais ça, c'est pas grave. » Si, ça l'est, imaginez que vous êtes plusieurs millions de personnes qui disent ça également.
Et puis, peut-être qu'on se dit qu'ils font plus attention à leur alimentation. Mais régulent-ils leur consommation ? Est-ce que lorsqu'ils dépensent leur argent dans des loisirs, ils pensent au coût écologique ? Est-ce qu'ils ne jettent plus leurs aliments ?
Bref, rien n'est réglé finalement. Mais si on se serre tous les coudes, si on reste solidaire en aidant toute cette cause écologique, cela permettrait bien des choses.
Et puis, même si certains disent qu'il est déjà trop tard, nous pouvons quand même essayer d'arranger la situation, et en pensant aussi aux générations futures.
Restons positifs, optimistes et engageons-nous tous dans la lutte pour le climat.
Nous nous quittons sur ces belles paroles. Et d'ailleurs, je rajoute, aujourd'hui nous sommes venus en vélo toujours dans un cadre écologique et moi je trouve ça super.
On espère que cette émission vous aura plu et à la prochaine fois.
Merci à tous les trois de nous parler de ce sujet bien plus qu'important. Pour aller avec leur chronique, ils ont choisi la chanson de cette pause musicale.
Vous écoutez La Terre est ronde d'Orelsan.
Besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois ce genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Les rappeurs qu'un ils donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je rameuterai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après
Maintenant, pourquoi ne pas laisser Paolo nous parler de son sujet ?
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Bref, dans cette dernière émission de l'année, je vais vous parler des gens qui disparaissent chaque année, et des corps retrouvés mais que nous ne savons pas leur identité. Et oui, en effet, mon sujet est assez glauque. Donc environ 8000 personnes majeures disparaissent chaque année en France. Environ 50 à 70 000 personnes sont ajoutées chaque année au fichier des personnes recherchées. Parmi ces signalements, environ 10 000 sont considérés par les enquêteurs comme particulièrement préoccupants parce que le disparu n'utilise plus son téléphone, sa carte bancaire et ne publie plus rien sur ses réseaux sociaux, ou parce qu'il avait des intentions suicidaires, des fréquentations douteuses ou encore qu'il avait fait l'objet de menaces. On a 42 000 jeunes environ déclarés en fugue, 545 signalés enlevés donc avec violence ou détournés donc sans violence, le plus souvent par un parent lors d'un conflit familial. Pour 900 mineurs environ, la disparition a été jugée particulièrement préoccupante. Toutes les disparitions de mineurs sont obligatoirement considérées comme inquiétantes. Elles sont de plus qualifiées de particulièrement préoccupantes lorsque les services de police et de gendarmerie ont des éléments qui leur font craindre que le mineur ait pu être victime d'un acte criminel, prostitution, séquestration, meurtre. Je vous passe les détails et je vous avais dit que mon sujet était assez glauque. Aurait pu avoir un comportement suicidaire. Certaines affaires ont été très médiatisées. Lorsqu'une personne majeure faisant partie de votre entourage disparaît, une enquête peut être ouverte par la police ou la gendarmerie chaque année. Un peu plus de 60 000 personnes, la plupart mineures, disparaissent. Ces disparus resteront introuvables. L'immense majorité réapparaît dans les jours, les semaines ou les mois suivants. Tous ces disparus sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées. En 2019, environ 580 000 personnes répondent à des situations très diverses. Évadés, étrangers avec obligation de quitter le territoire, mais aussi mineurs en fugue ou encore personnes vulnérables introuvables. Par ailleurs, en France, de 2010 à 2018, entre 200 et 300 corps anonymes ont été découverts chaque année et enterrés sous X. Les trois quarts ont finalement été identifiés, ce qui laisse entre 50 et 100 cadavres par an qui ne le sont pas. Pour terminer, prenez soin de vous et à l'année prochaine.
Merci Paolo. Émile, on t'écoute.
Les tensions entre la Chine et Taïwan. Vous avez sûrement entendu parler des tensions entre la Chine et son voisin équivalent à l'Ukraine, pour la Russie bien sûr. Et ce voisin, ce pays ou cette île s'appelle Taïwan. Cette île de 24 millions d'habitants devra peut-être se battre contre une des plus grandes puissances économiques, la Chine. On pense vraiment que la Chine peut gagner à plate couture Taïwan, alors que ce ne serait pas aussi simple. Car Taïwan se développe et commence à avoir des moyens de se défendre, et aussi le terrain est plutôt défavorable. Et aussi Taïwan peut compter sur ses alliés comme les États-Unis, l'Angleterre, même la France ou la Corée du Sud, et d'autres pays. Mais aussi Taïwan est énormément équipé de radars, et la Chine ne développe aucun avion furtif excepté les avions J-20, mais selon les études, disent qu'il ne l'est pas. Histoire. Beaucoup de Chinois sont venus à Taïwan il y a très longtemps. Et dans les années 70, Taïwan, alors indépendant de la Chine, devient indépendante. Et depuis, la Chine revendique Taïwan. Et depuis 2013, les tensions n'ont jamais été aussi hautes lors de l'élection de Xi Jinping. Et depuis un certain temps, la Chine fait de plus en plus de manœuvres autour de Taïwan. Malgré les avertissements de Washington et aussi énormément d'intrusions aériennes par des avions militaires chinois dans le secteur aérien taïwanais. Vers la fin d'année 2022, 26 avions chinois sont entrés en intrusion et pendant l'été 2022, plus de 446 intrusions et d'autres. Enfin bref, un record d'intrusions aériennes chinoises, mais pas que à Taïwan. Les États-Unis ont été victimes d'intrusions par des ballons chinois, deux fois. Ce qui représente une grande menace et les tensions entre Washington et Pékin n'ont jamais été aussi tendues. Pour décourager la Chine, il faudrait que l'Ukraine gagne contre la Russie et éviter trop de choses exportées de la Chine et faire que les États fassent pression. Certains chefs de guerre américains pensent avoir une guerre envisageable en 2025, mais rien n'est certain. Et on espère que ça n'arrivera pas. C'est la dernière fois que je vous parle et je vous souhaite d'agréables vacances.
Merci Émile. On écoute maintenant la musique que tu as choisie, Sunday, Bloody Sunday.
Yeah.
C'était super, c'est à toi Iban.
Bonjour à tous, c'est Iban Micro.
Pour cette dernière émission, nous arrivons au collège de Guissac à vélo. C'était super. J'ai choisi de vous parler d'un sujet très présent dans l'actualité, les intelligences artificielles. Pourront-elles nous remplacer un jour? Oui et non, car ça dépend quel métier vous avez. Par exemple, si vous êtes artiste peintre, elle vous remplacera peut-être un jour. Par exemple, Dali est une intelligence artificielle qui créera des images ressemblantes à la réalité, ou elle pourra compléter des images déjà existantes. Par contre, si vous êtes pêcheur, elle ne pourra pas vous remplacer. Enfin, pour l'instant. D'autres intelligences artificielles sont-elles plus dangereuses? Replica peut nous créer des amis, mais aussi des amoureux. Voilà pourquoi c'est déstabilisant. ChatGPT est une intelligence artificielle qui est très intelligente. Elle peut faire des exercices, résoudre des problèmes très compliqués. Donc, un anti-ChatGPT a été créé pour aider les professeurs à détecter les tricheries. Il se nomme ChatGPT 0. Dans le futur, certains ingénieurs veulent même créer des IA pour faire la guerre. Moi, je trouve que certaines IA peuvent être bien, comme Dream, que j'utilise pour me générer des fonds d'écran, mais d'autres, comme Replica, peuvent être plus dangereuses. Alors, méfiez-vous de toutes ces nouveautés, utilisez avec précaution. Ne donnez pas toute votre confiance à un robot. Au revoir et à la prochaine.
Maintenant qu'Iban nous a parlé de son sujet, on le remercie.
Et on vous passe Waka Waka de Shakira pour introduire le sujet d'Anaïs et Léna.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I must put over, people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa.
Bonjour à tous et à toutes. Avec Léna, nous allons vous présenter une chronique sur la Coupe du Monde féminine. Je vais vous en dire plus sur l'histoire des femmes dans le football. Pour pouvoir jouer au foot, les femmes avaient besoin de l'autorisation et la signature de leur mari. Le premier club en France, le Femina Sport, est fondé en 1912 par deux enseignantes d'éducation physique. C'est au cours de la Première Guerre mondiale que les femmes se défoulent à l'usine avec un ballon de cuir. Le premier match de foot féminin en France s'est déroulé le 30 septembre 1917. C'était deux équipes du Femina Club qui se sont affrontées. Le Femina Club est un club fondé à Paris. Mais ce n'est qu'en mars 1970 que le Conseil fédéral de la FFF va reconnaître son existence. Il faudra malheureusement attendre 1971 pour que le premier match officiel de l'équipe de France féminine soit reconnu. Le match était contre les Pays-Bas. Les femmes ont effectué un long combat pour pouvoir librement jouer au foot. Cette année, c'est seulement la 9e édition de la Coupe du Monde féminine. La Coupe du Monde aura lieu le 20 juillet 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il y aura 32 pays participants et également 64 rencontres. Le match d'ouverture sera à Auckland en Nouvelle-Zélande et la finale aura lieu à Sydney en Australie.
Bonjour, je vais vous présenter l'équipe de France féminine en Coupe du Monde. Elles s'entraînent quelque temps en France, à Clairefontaine. Leur capitaine est Wendy Renard et leur entraîneur est Hervé Renard. À savoir que leur capitaine et leur entraîneur n'ont aucun lien de parenté. Elles sont 26 dans leur équipe. À toi, Anaïs.
Nous avons choisi ce sujet car Léna et moi, nous faisons du foot au Galia Club Kisakwa. Je pratique le foot depuis 4 ans et Léna depuis 3 ans. Quand j'ai commencé, la section féminine venait d'ouvrir. Le poste de Léna est défenseuse centrale et moi, défenseuse droite. Avec notre club, nous avons participé au championnat du Gard féminin de notre âge. Nous jouons également les samedis matin.
Notre club nous a offert des places pour aller voir le match des filles de Montpellier, MHSC. Contre le Havre, nous devions faire notre entrée avec les filles du MHSC. Mais à cause du protocole, nous n'avons pas pu. Les Montpellierennes ont gagné 3-1. À la fin du match, nous nous sommes allés les voir et elles nous ont signé des autographes. Nous avons pris des photos et nous leur avons parlé. C'était génial. Normalement, nous reviendrons l'année prochaine. Sur ce, au revoir et à bientôt.
Merci Anaïs, merci Léna.
Merci à tous de nous avoir éclairés sur les actualités. On change de thème et on laisse parler Augustin.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je m'appelle Augustin et je vais vous parler de mon voyage en Espagne. En avril, j'ai eu la chance de pouvoir partir pendant 5 jours en voyage scolaire organisé par ma professeure d'espagnol, Madame Mounier. Le premier jour, nous sommes partis du collège vers 6h40 pour arriver vers midi à Barcelone. Nous avons fait une visite du parc Güell avec plusieurs œuvres faites avec du verre cassé. Après avoir terminé la visite, nous avons mangé. Dès le repas achevé, nous sommes allés à la Sagrada Familia. En 2026, ça fera 100 ans qu'elle est en travaux par la suite. Nous avons rejoint nos familles d'accueil. Le deuxième jour, direction le quartier gothique, pour faire un rallye photo. Arrivés à la première zone, nous avons répondu à un questionnaire. À la fin, nous nous sommes corrigés et nous sommes allés dans un parc pour manger. Après la pause de midi, nous avons fait une visite guidée de Barcelone à vélo qui a duré 3 heures. Le troisième jour, c'est à pied que nous nous sommes rendus à l'atelier tapas. Et à la pause de midi, nous les avons dégustés. Après, nous nous sommes allés à Barcelone pour découvrir le port dominé par le monument de Christophe Colomb. Après une petite promenade sur les Ramblas et au marché de Boqueria. Le quatrième jour, nous sommes allés au palais de la musique catalane pour y faire une visite guidée. Nous avons vu plusieurs plantes dessinées ou sculptées. Et à la fin de la visite, ils nous ont fait écouter un orgue. Malheureusement, pendant la pause de midi, deux camarades se sont fait voler leur sac à dos et l'un d'entre eux s'est fait voler sa carte d'identité. Après ce malheureux incident, nous sommes allés visiter le musée de Picasso, mais il n'y avait pas beaucoup d'œuvres cubistes. Le cinquième jour, c'est l'heure du départ. Nous quittons Barcelone et nos familles d'accueil pour aller au musée Dalí à Figueras. Certaines œuvres étaient très chouettes. Nous sommes arrivés à Quistac vers 17h. Ce voyage était divertissant. Nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. Comme vous avez pu l'entendre, le programme était très chargé et varié. Ma famille d'accueil était très sympathique et ils m'ont préparé des plats spéciaux. Pendant les quartiers libres, j'ai pu acheter des souvenirs qui me permettent de me rappeler ce beau voyage scolaire. Merci d'avoir écouté ma chronique et au revoir.
Merci Augustin pour ce rapport de stage très détaillé. C'est ainsi que se termine notre dernière émission de cette année scolaire. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la conception de cette émission.
Madame Rouvière, notre professeur documentaliste, Laurent, AESH, le principal monsieur Delorme qui a permis à notre club d'enregistrer à Saint-Hippolyte-du-Fort et de faire cette sortie à vélo, et à Fabien, l'intervenant de Radio Escapade, et puis enfin à tous les membres de notre joyeuse petite troupe.
Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à très bientôt en vous souhaitant un très bel été.
Le collège de Kuta, des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.